bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche midi sur France Inter à la radio, sur France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation est l'un des 6293 candidats à l'un des 577 sièges de députés. Mais député, il l'est déjà et depuis 20 ans, un ancrage dans l'Oise, entrecoupé de fonctions ministérielles sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, des fonctions également de dirigeant de l'UMP et des Républicains, car longtemps, notre invité était l'une des figures de la droite républicaine de gouvernement, était, parce que depuis quelques mois, il a rejoint En Marche et Emmanuel Macron, un départ vu comme une trahison opportuniste chez les Républicains qui se sont un peu réjouis de le voir finalement absent du gouvernement d'Elisabeth Borne. Regrette-t-il aujourd'hui son ralliement au président de la République? Que dit-il à sa famille d'origine, les Républicains? Comment cet apôtre de la rigueur budgétaire imagine-t-il concilier pouvoir d'achat, dette du quoi qu'il en coûte et réforme de la retraite? Ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à notre invité avec nous. Et en direct, jusqu'à 13h, le député Éric Woerth est l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation jusqu'à 13h en direct à la radio et à la télé. Pour vous poser les questions, je serai en compagnie de la bande de Questions politiques, Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Merci d'être là, Françoise Fressos du Monde, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Salut Karine.
Salut tout le monde.
Première question d'actualité, Éric Woerth. Hier soir, la France brillait dans le monde avec le palmarès du Festival de Cannes, on ne va pas le commenter ensemble, rassurez-vous, et avec la finale aussi de la Ligue des Champions de football. Si le premier événement s'est plutôt bien déroulé à Cannes, le deuxième a été un fiasco qui fait la une et un peu la honte de la presse internationale. Des violences de rue, des policiers qui chargent, du gaz lacrymogène, un match décalé de 36 minutes. Est-ce que c'est la France qui est désorganisée?
Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a une enquête, je pense que l'UEFA devra également dire les choses. Je n'ai fait qu'entendre ce que vous avez dit, ce que vos rédactions ont dit, ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin également, a dit. C'est-à-dire que des faux billets qui ont encombré les portiques d'entrée, qui ont empêché des gens munis de billets souvent achetés très très cher, et surtout des Anglais, si j'ai bien compris, surtout des supporters de Liverpool. Et puis ça s'est terminé, hein. Évidemment, beaucoup de heurts. On a parlé d'une forme de désordre ou de gestion chaotique. On verra bien, tous ces grands événements doivent être évidemment organisés de façon très, très méthodique. Alors, il y a eu très peu de temps pour l'organiser, parce que je rappelle que c'était à Saint-Pétersbourg notamment.
Est-ce qu'on n'a pas su faire en deux mois? Est-ce que c'était trop juste?
Moi, je suis pas un spécialiste de l'organisation de grandes manifestations. Il y a plein de grandes manifestations qui se passent très bien en France.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème structurel de violence? On l'avait vu avec les Gilets jaunes, on le voit à chaque fois qu'il y a une manifestation syndicale. Les fins de manif, les événements sportifs, ça se passe souvent mal. Est-ce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre en France, comme le soulignait Thomas?
Non, je fais pas de langue de bois, c'est ce que je pense. On a une police, tout à fait, une police, gendarmerie, force de l'ordre tout à fait remarquable. Mais on a une police républicaine. Donc dans une police républicaine, évidemment, il faut maintenir l'ordre sans violence ou sans violence excessive. C'est fondamental pour le respect des uns et des autres. Donc c'est plus compliqué que dans d'autres pays où on se gêne pas. On se gêne pas et c'est pas la France tout ça. Donc c'est plus compliqué. Maintenant, globalement, je note que la plupart des grands événements passe à peu près correctement, mais quand il y a de la violence, et vous avez raison, on en signale beaucoup souvent, c'est un peu à l'image de la société. On est dans une société de plus en plus violente, par les faits physiques, mais
qu'est-ce
aussi par les mots.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Bah,
vous le sentez sur le terrain?
J'y vis comme vous en France. Je vois bien qu'il y a beaucoup d'intolérance qui monte, pas uniquement dans l'extrême gauche ou l'extrême droite, on peut se dire les extrémistes ou ceux qui veulent casser la table sont violents par nature puisqu'ils ne veulent pas de la société dans laquelle on vit, mais plus largement il y a une intolérance, l'incapacité à accepter l'autre. Moi ça me choque beaucoup. Enfin, moi je suis catholique, j'essaie de mettre à peu près
en conformité
avec mes convictions ou mes croyances. J'ai du respect pour l'autre par principe puisque c'est l'autre, et j'essaie de le comprendre. Et très souvent, même dans le champ républicain, on n'a plus aucun respect. On vous injurie souvent là. En direct de façon anonyme, c'est presque encore pire. Bon, enfin, c'est pas formidable même quand on met son nom. On ne supporte plus.
Le climat s'est détérioré ces dernières années.
Oui, j'ai pas d'explication.
Les journalistes, on connaît un peu. Quand on est un homme politique, c'est quelque chose qui qu'on sent vraiment avoir changé depuis quelques temps.
plus que... Oui, bien sûr.
Depuis combien de temps que... vous le...
Non, mais je ne le date pas. Moi, je ne voudrais pas faire de la sociologie de bazar.
Je vous explique c'est un témoin.
C'est intéressant.
Ce qu'on reçoit sur les portables, enfin, ça touche les enfants aussi, hein, entre nous. Donc, on ne suit pas. Un parent d'élève va rapidement insulter d'autres parents d'élèves parce que son fils ou sa fille de 5 ans ou de 6 ans, vous voyez bien, les choses vont souvent très, très loin.
Mais il n'y a pas avant et un après gilet jaune, par exemple, où vous n'avez pas noté des choses comme ça?
Non, je ne crois pas. Je pense que les gilets jaunes, ça a été un moment, une étape. Il y a deux étapes, hein, dans les gilets jaunes. Une étape dans laquelle, au fond, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, souvent des personnes qui travaillent ou qui étaient bénéficiaires de pensions. Puis après, ça vrille totalement sur le plan politique et ça se termine par des violences tout à fait insupportables. De toute façon, la violence est insupportable dans une société comme la France. Et quand on parle de bienveillance, moi, je crois beaucoup à ça, à l'idée d'une bienveillance, mais enfin, on en est loin. Donc, on a besoin d'apaiser la société française. Mais c'est pas uniquement le président de la République ou le gouvernement qui peut le faire. C'est aussi chaque Français est responsable de cela. Chaque personne qui fait un post, un tweet, etc., où il ne donne pas une opinion raisonnable, responsable, approfondie, mais qui insulte immédiatement l'autre, est responsable de la dégradation que souvent d'ailleurs il tente de combattre lui-même. Donc on est dans une société de paradoxes. La seule manière d'en sortir, c'est de réformer le pays. C'est de réformer le pays, c'est de l'amener à réfléchir un peu plus à la réforme dont on a besoin, au mode de vie dont on a besoin, à la responsabilité de chacun.
Mais réformer, ça va pas cabrer cette société qui est déjà
Oui, mais alors sinon elle disparaîtra, je sais pas comment, mais ça ne marchera pas. Le modèle républicain, il a besoin de se transformer au fur et à mesure du temps. Il doit être en avant sur la société, il doit pas courir après la société.
Est-ce que vous considérez que le personnel politique, vous êtes un élu et un responsable politique depuis plusieurs décennies, est responsable aussi de ce climat, que c'est pas uniquement les réseaux sociaux, que c'est pas uniquement la faute des gilets jaunes?
J'en prends ma part de responsabilité, je suis français, j'en prends ma part de responsabilité.
Vous êtes pas que français, vous êtes aussi un responsable politique.
En tant que oui, bien sûr, mais tout ne joue pas. Enfin, vous voyez, les hommes et les femmes politiques sont des boucs émissaires, ce qui est bien naturel. Ils sont là pour ça, et c'est pas un problème. On peut résister à ça, mais globalement, chacun doit se dire qu'il est porteur d'une partie de l'avenir de son
vous
propre pays, qui n'en est pas uniquement l'observateur. Il n'y a pas de passive attitude possible en France.
Mais alors, vous êtes très grave sur le modèle républicain. Vous pensez qu'il y a un vrai danger, c'est-à-dire que si dans ce quinquennat-là, il n'y a pas un changement de comportement, qu'on passe à une active attitude, comme vous dites, c'est-à-dire que chaque acteur se sent impliqué, pensez qu'on va vers des vrais drames.
On peut, oui. Enfin, je suis pas là non plus pour faire du catastrophisme un dimanche matin. Mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience de chacun, de chaque Français, en se demandant s'il a la bonne attitude dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. On est un pays qui est moins soumis aux tensions que la plupart des autres pays. On est un pays qui est plus républicain que la plupart des autres pays. On est un pays où on peut s'exprimer librement, plus que dans la plupart des autres pays du monde. On est un pays protégé des famines, protégé des crises, au fond, en profondeur, qui vous amènent à la ruine totale, plus que de la plupart des autres pays. Donc il y a quand même un tout petit peu de positif. Il y a aussi des choses qu'on a réussies. La France d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ans. Et tous ceux qui essayent de revenir à la France d'il y a 30 ans seraient les premiers à la critiquer, d'ailleurs, parce que les élus d'il y a 30 ans, ils se faisaient sacrément enguirlandés par leurs propres électeurs. On a trois hommes politiques, ce sont des modèles absolus. Clémenceau, Churchill en Angleterre ou De Gaulle. C'est des figures, évidemment, qui sont des figures de livres d'histoire, des guides pour l'action politique. Ils ont tous été battus à un moment donné aux élections par leur propre opinion publique.
Et parfois après des triomphes.
Et après, souvent des triomphes. Donc des héros battus en réalité par l'opinion publique du moment. Donc tout ce qui relève de la France passée, de la nostalgie, au fond, on pleurniche sur la France du passé et puis on s'intéresse pas à la France de l'avenir. Non, il faut qu'on parle de la France de nos enfants et elle nécessite beaucoup de réformes si on veut que nos enfants y soient heureux.
Alors on va parler de la France d'aujourd'hui, justement. Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a 2 semaines environ et déjà beaucoup d'interrogations sur sa composition. On parlera du fond et de la forme plus tard, mais de la composition. La première, elle vous concerne directement et personnellement, c'est votre absence de ce gouvernement. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que votre ralliement a été mal payé?
Mais il n'y a pas, enfin, payer, c'est pas du tout le terme. J'entendais, je lisais que j'avais négocié sans doute un poste contre un soutien.
Ça se passe souvent comme ça.
La réponse est non. Donc la réponse, voilà, par la preuve. En fait, j'ai presque été soulagé.
Par la preuve, non. Ça peut être aussi la preuve que vous êtes mal payé.
Non. Je l'ai fait par conviction. J'aurais peut-être aimé être au gouvernement, mais c'est pas un sujet, c'est un sujet personnel. Mais je n'y suis pas. Ça ne provoque chez moi aucun regret. Au contraire, je suis heureux d'avoir soutenu Emmanuel Macron et j'en suis fier et je l'assume. Je l'assume. Et c'est, j'ai considéré que ma propre formation politique et encore maintenant, au fond, ne représentait plus les convictions qui m'y avaient fait adhérer il y a évidemment longtemps. Et que ce bloc républicain était en train de s'effriter, qu'on passait d'une droite républicaine, ouverte, gaulliste, libérale, européenne, vers une droite qui ne l'était de moins en moins. Ni gaulliste, contrairement à ce qu'ils disent en général, ni européenne, c'est évidemment certain, et de moins en moins libérale.
Donc vous venez de dire que vous n'auriez pas été contre une entrée au gouvernement. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits, qu'après les élections législatives, il y a encore une possibilité que vous le deveniez.
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas.
Mais donc, du coup, ça veut dire que vous avez frappé à la porte d'Emmanuel Macron ?
Non, ou... j'ai pas frappé à la porte du gouvernement. Je n'ai pas frappé non plus à la porte d'Emmanuel Macron. On s'est appelé au moment de la crise du Covid sur le plan de relance. Vous voyez, c'est des trucs assez précis. En tant que président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Vous
n'avez
pas parlé depuis.
Et je lui ai beaucoup parlé jusqu'à l'élection présidentielle.
Et là, il n'a jamais été question de « tu rentrerais peut-être dans mon gouvernement
» Non, jamais. Enfin, non. Je sais bien qu'on a du mal à croire, mais je ne vais pas mentir pour vous donner l'envie de croire ce que vous croyez. Non, pas du tout. On a parlé que du fond. Je l'ai rencontré plusieurs fois, longuement. J'ai considéré qu'il représentait à la fois une chance pour la France compte tenu de son expérience. On a besoin de gens expérimentés, très expérimentés dans les temps de transition dans lesquels nous sommes. Et honnêtement, en France, je trouvais qu'il n'y avait pas plus expérimenté que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron.
Et quand vous regardez la liste des ministres ou des secrétaires d'État, est-ce que vous dites « j'avais quand même ma place là » ?
Mais je raisonne pas comme ça. De toute façon, j'avais ma place, possible. C'était possible. C'est-à-dire que avec d'autres, il y en a plein d'autres qui auraient pu être dans un gouvernement. Il y a peu de monde, donc heureusement qu'il y a un vivier assez important. Mais on peut être utile là où on l'est. En tout cas, il y a un gouvernement qui est plutôt expérimenté.
Symbolique
de ce que peut-être, au fond, ce qu'on appelle le macronisme, c'est-à-dire la capacité à casser des clivages qu'on a dénoncé pendant très longtemps dans le passé, même dans le passé récent, et qu'Emmanuel Macron a su réaliser.
Alors, le Premier ministre vient de la gauche, Elisabeth Borne, alors qu'il y a eu une hésitation avec une Premier ministre qui pouvait venir de la droite, Madame Vautrin. Vous regrettez, vous, qu'on se déporte sur la gauche, ou vous dites non, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire on fait sauter les clivages ?
Écoutez, on verra ce que fera le gouvernement. Ce qui importe, c'est pas de savoir quelle est l'origine politique. Le macronisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'avait d'ailleurs essayé finalement aussi le sarkozisme, de faire venir des gens de gauche dans un gouvernement de droite. Là, le gouvernement, Monsieur Macron, n'est ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche. Il a essayé de dépasser ces clivages là. Pourquoi pas ? J'étais un peu hésitant au départ. Et je crois quand même qu'il y a toujours une droite et une gauche. Et notamment, il y a des sociaux-démocrates, et puis il y a des gens de droite comme moi, gaullistes, libéraux, européens, qui peuvent gouverner, évidemment, ensemble.
Et sur
ils
cet échiquier
ensemble.
Sur
si on dit qu'ils ne peuvent pas gouverner ensemble, alors il ne fallait pas croire tous ceux qui, pendant des années, nous ont dit « mais on ne comprend pas, vous vous opposez de façon artificielle, alors que vous pensez la même chose sur plein de sujets ». Et moi, je pense qu'il faut... moi, j'aide Emmanuel Macron parce que je dois être à peu près d'accord sur 70% de ce qu'il fait.
C'est parce que vous disiez sous le précédent quinquennat, quand même.
Non,
vous
mais
l'avez beaucoup critiqué.
C'est peut-être pour ça que
j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué.
C'est peut-être pour ça que vous êtes pas ministre, Éric Woerth.
Vous m'avez
70%, c'est pas beaucoup quand même. Hein.
Ah, c'est beaucoup. J'étais d'accord à peu près avec ce que faisait Nicolas Sarkozy.
Vous dites j'ai beaucoup évolué.
Je trouve que c'est beaucoup, mais c'est énorme. Énorme. C'est énorme, 70%.
Les députés de la majorité sont d'accord à 95% ou 99% avec Emmanuel Macron.
On verra pour le deuxième quinquennat.
C'est quoi les 30% restants?
Ah oui. Mais ça peut être plein de choses.
Quoi les 30% restants?
Je n'ai pas fait la liste complète. C'est un chiffre. Je n'ai pas créé une statistique très précise.
Mais vous savez, par contre,
ça veut dire qu'on ne peut pas être totalement. Honnêtement, si vous cherchez à vous marier, c'est très difficile d'être à 100%, parce que sinon, là, pour prendre un exemple que tout le monde peut comprendre, voilà. Donc, en réalité, vous vous mariez jamais. Ou alors, si vous cherchez le dernier ordinateur qui est pas encore paru, vous achetez jamais d'ordinateur. Donc, il y a un bon président, il y a un président qui a été réélu tout à fait fortement. Et son évolution durant ce quinquennat a été, me semble-t-il, tout à fait remarquable. Maintenant, il y a un deuxième mandat. Et ce mandat, c'est le mandat de la liberté pour lui, puisqu'il n'est pas rééligible. C'est le mandat également de la réforme du pays, et je l'espère, pas pollué par des crises absolument terribles comme celles que nous avons vécues aujourd'hui.
Vous venez de LR, vous êtes maintenant en soutien d'Emmanuel Macron, et vous dites « j'ai beaucoup évolué ». Quel est le déclic qui a fait qu'à un moment, vous dites « c'est du côté de Macron que ça se joue ». Est-ce que c'est l'attitude vers l'Europe ?
Ça s'est fait lentement. D'abord, je considérais que ma famille politique évoluait pas bien. Ne travaillait pas assez, redisait ce qu'on disait depuis longtemps, s'éloignait de l'Europe, et avait une vision aussi de plus en plus brutale vis-à-vis du président de la République. On l'avait critiqué quand il y avait une vision brutale contre Nicolas Sarkozy. Donc je voulais pas qu'on réplique la même chose. Il n'y avait aucune raison pour qu'on réplique les choses comme ça. Et de moins en moins européenne aussi, qui était fondamentale. Deux tiers du groupe n'a pas voté le pass vaccinal, ce qui pour moi était évidemment preuve d'un certain... Beaucoup de certitude aussi sur du passé. Beaucoup aussi de démagogie, c'est-à-dire qu'on suit le dernier sondage, on prend les sujets les moins difficiles. La voie difficile, on la prend jamais.
Sur la question de la dette et des déficits, qui sont toujours des sujets importants pour vous, que vous mettez au centre quasiment de tout.
Je termine sur le déclic, parce que sinon je ne vais pas y arriver.
Allez-y.
Et le deuxième élément, c'est que je trouvais qu'Emmanuel Macron devenait de plus en plus président au travers des crises qui le secouaient. Vous savez, le grand débat qui a eu lieu après les gilets jaunes. a été, moi je l'ai critiqué parce qu'en disant mais on n'en a rien retenu sur le fond, mais en fait c'était pas le sujet, c'était de renouer les fils avec la France. Et puis après il y a eu évidemment l'action sur le Covid qui était très bonne. Les Républicains étaient encore en train de se demander pourquoi il y avait pas de masque alors qu'il y en avait déjà, et on devait avoir une longueur d'avance. On n'a jamais réussi à avoir une longueur d'avance dans nos propositions. On aurait pu le faire sur la relance par exemple, et puis la crise en Ukraine, mais ça c'est un autre sujet.
À propos de la formation,
avant la nécessité européenne. La nécessité européenne aujourd'hui, elle est claire. Tous ceux qui pensent que on pourra renforcer la France en affaiblissant l'Europe, ils se trompent complètement. Le souverainisme, c'est vraiment une version dévoyée de la souveraineté.
Monsieur Woerth, pour en revenir à la formation de ce gouvernement, il y a une personnalité en particulier qui a cristallisé à la fois les commentaires, les critiques, les procès d'intention, on dit certains, c'est le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui remplace Jean-Michel Blanquer. On dit que c'est son exact opposé en termes d'idéologie. Est-ce que vous avez été heurté, satisfait de la nomination de M. Ndiaye à ce ministère?
Non, mais ni heurté, ni
satisfait.
Ni satisfait. Je n'en sais rien. Je n'ai pas lu les
écrits connaissez.
De M. Ndiaye. Oui, je le connaissais évidemment, mais je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Il n'a jamais été ministre. Ministre, c'est pas la même chose que d'écrire un texte.
Mais certains disent que c'est un signal, différent. Même des soutiens du président, comme Jean-Pierre Chevènement, un mauvais signal adressé sur la laïcité précédents écrits.
Qu'en pensez-vous? Peut-être, j'en sais rien. On verra, on jugera sur place et sur pièce. Les Français verront si c'est un bon ministre de l'Éducation nationale qui déverrouille l'Éducation nationale, qui est quand même d'une pesanteur extraordinaire, sachant que souvent chaque prof ne l'est pas. On a créé une sorte de rigidité collective qui est considérable, et il faut essayer de lever ça pour le bien des élèves. Il n'y a aucune raison qu'il y ait autant d'argent, parce que la France met beaucoup d'argent sur l'éducation, et il faut qu'on en mette sans doute encore plus, avec une clé fondamentale qui est une meilleure éducation, une meilleure formation, une meilleure qualification des Français. Seule manière d'ailleurs de créer du pouvoir d'achat, mais au-delà même du pouvoir d'achat, c'est ce qu'on doit, ce que doit une République, notamment aux jeunes et aux salariés. On verra si on réussit à faire ça. Et tant mieux si on réussit. Donc je trouve aussi qu'à chaque fois qu'un gouvernement est nommé, on tombe sur les uns, sur les autres. Il n'a même pas commencé que déjà le type ou la femme. C'est pas comme ça qu'il fallait faire.
Donc,
il y a des procès d'intention. Enfin, laissons faire. Voyons la feuille de route du gouvernement. Voyons les premières réformes qui sont inscrites au calendrier du gouvernement. Quand il y aura une majorité, il faut qu'il y ait une majorité. S'il n'y a pas de majorité, ce sera Mélenchon le Premier ministre.
On va revenir. Éric Woerth,
si j'en crois ce que dit M. Mélenchon.
Vous ne connaissez pas Pap Ndiaye. En revanche, il y a un autre ministre que vous connaissez bien, c'est Damien Abad, accusé de viol, d'agression sexuelle par deux femmes. Christian Jacob, patron des LR, a dit qu'il avait été alerté en 2017. Il n'était pas encore patron des LR à l'époque, Christian Jacob, mais patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous-même, dirigeant du parti, vous aviez entendu parler de ce qu'on appelait à l'époque des rumeurs autour de Damien Abad.
Oui, bah à la même époque, puisque ça avait fait l'objet d'un article de presse, donc à la même époque. Mais c'était des rumeurs, et ces rumeurs n'avaient abouti à aucune poursuite judiciaire. Donc ça compte beaucoup.
Est-ce que vous l'aviez entendu lui aussi, comme Christian Jacob? Vous étiez allé lui parler à Damien Abad?
Non, parce que c'était des rumeurs générales, et il n'y avait pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas de judiciaire, et puis j'avais pas de relation particulière avec Damien Abad. Ce qui est très important, c'est la présomption d'innocence. Pardon de le redire, parce que ça tourne souvent en boucle sur les plateaux de télé, sauf que c'est une vérité pour celles et ceux qui en subissent les conséquences. Donc la présomption d'innocence, elle doit être extrêmement forte. La parole des victimes l'est aussi. Aussi, c'est pour ça que c'est compliqué. À la fois,
c'est pour ça que Monsieur Abad doit rester ministre.
Il faut un peu la preuve.
Mais c'est pour ça que Monsieur Abad doit rester ministre, pour promouvoir la présomption d'innocence. Démissionner, ce serait une forme d'aveu.
Il n'y a pas de raison d'être sanctionné. On peut sanctionner. Le président peut décider qu'un ministre n'a plus l'image qui convient, ou que sais-je. Il peut le faire. Mais je note qu'il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, je peux me tromper, mais il n'y a pas d'enquête judiciaire. S'il n'y a pas d'enquête judiciaire, et compte tenu de la rapidité avec laquelle, on engage des enquêtes judiciaires dans notre pays et dans plein d'autres pays d'ailleurs, c'est qu'il y a probablement aujourd'hui, à ce stade, à l'heure où on parle, de raison d'en ouvrir une. D'ailleurs, le parquet n'a pas dit autre chose. Je rappelle qu'il y avait des plaintes.
Le parquet n'a pas souhaité se saisir. Parce que la plaignante est anonyme, ce qui d'ailleurs pourrait changer, puisqu'on apprend qu'elle pourrait désormais porter plainte.
Je dis à ce stade, à 12 heures.
À ce stade, en l'état.
Voilà, en l'état. Si le parquet ouvre une enquête, c'est évidemment une deuxième phase qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, M. Abad est coupable. Ça veut dire que la justice y travaille. C'est la justice de décider si quelqu'un est coupable ou pas. D'ailleurs, il y avait eu des plaintes et elles avaient été classées par cette même justice. Donc, on ne peut pas tout vouloir. On peut pas faire des procès sans arrêt sur la place publique. Il y a des limites
avec,
à ça.
C'est ce qu'on a fait avec, dans l'affaire des homards, avec François de Rugy. Il n'y avait pas eu de mise en examen. Les montants n'étaient pas exorbitants. Et pourtant, très vite, on lui a demandé de quitter le gouvernement. Ça fait deux poids, deux mesures, là, quand même.
Mais on n'était pas obligé. Non, parce que personne n'y a mis fin, en fait. Je veux dire qu'il y a un moment donné, ça prend, et puis vous ne pouvez pas empêcher les articles de journaux. Mais par contre, vous pouvez interroger, et vous m'interrogez, je vous réponds ce que je crois. C'est extrêmement difficile, d'ailleurs, de vous répondre ce que je crois, parce que ça peut être... Tout est extraordinairement mal interprété. Dès que vous sortez de la ligne, on peut dire, mais alors et les victimes, et vous croyez pas, moi aussi, le viol est un crime absolu, évidemment, bien sûr. Mais quand même, vous cassez parfois des vies sur...
Oui, mais dès lors qu'il y a soupçon, ça suffit pas pour se dire bon, il rentrera peut-être la prochaine fois,
Non, vous pouvez pas être uniquement dans une France souvent plus malveillante que bienveillante, vous ne pouvez pas uniquement être à l'heure du soupçon sans arrêt. Parce que plus vous montez, plus vous êtes exposé. Plus on peut vous soupçonner. Et plus ça donne envie d'être soupçonné aussi. Il y a plein de gens qui ont envie de raconter des choses qui parfois n'ont aucun fondement. Ça voudrait dire qu'un n'importe qui au gouvernement ou dans une entreprise, ou dans une grande entreprise ou un grand journaliste, donc très exposé, pourrait être soumis au fond à ce qu'on appelle des fake news. C'est comme ça que vous le dites. On fait aussi la chasse. Donc il faut de la responsabilité. Quand on est déclaré coupable, il faut évidemment être puni. En fonction, voilà, je peux pas dire autre chose à propos de Damien Abad.
France Inter. Question politique.
Éric Woerth avec nous jusqu'à 13h en direct. Vendredi, à l'issue du Conseil des ministres, Elisabeth Borne a défini sa méthode.
J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre. Rapidité, efficacité et résultat. J'y tiens et nous ferons collectivement un suivi continu de notre action.
Rapidité, efficacité, résultat, j'imagine qu'on peut tous être d'accord avec ça. Oui. Mais est-ce que, compte tenu des enjeux qui sont parfois à moyen, voire à long terme, je pense par exemple au dérèglement climatique ou à la question de la paix, demander de la rapidité et de l'efficacité, c'est pas un petit peu contradictoire?
Il faut tout ça parce que, en fait, ça apparaît comme des évidences. Ça l'est pas dans la réalité. La France est assez lente, plus lente que dans d'autres pays pour les prises de décision au moins publiques. Sur l'efficacité, on peut se poser, enfin moi je m'en pose en tout cas beaucoup et je peux en parler longuement, on peut parler de l'efficacité de la dépense publique. On dépense beaucoup, beaucoup plus que la plupart des autres pays, beaucoup plus que les Allemands pour un service public de qualité parfois inférieure. Et puis les résultats, ben, ils sont pas perçus. On les perçoit pas, on les perçoit jamais. Parce qu'entre le temps de la parole politique, de l'annonce d'une mesure nouvelle, et puis, au fond, le passage dans votre vie personnelle, familiale, il y a beaucoup de temps, on a oublié tout ça, et puis d'ailleurs, on en fait en général la synthèse. Regardez, quand il y a des... Après, le Ségur de la santé, on augmente de manière importante les personnels soignants. Sans doute pas assez, mais ça coûte une dizaine de milliards, ce qui est déjà considérable. Faudra-t-il aller plus loin? Évidemment qu'il faudra aller plus loin. Mais enfin, quand même, bah, le personnel, il est pas content. Il dit, c'est pas assez, c'est pas suffisant, on me reconnaît pas. Ça se retourne presque contre ceux qui ont décidé d'aider. Donc on voit bien que la France, elle a besoin de résultats et elle a besoin d'efficacité. Elle a besoin de productivité aussi. Ça veut dire que pour un euro, ben, l'euro, il doit donner plus que ce qu'il donne aujourd'hui.
Alors, sur le concept de rapidité et sur l'idée d'Emmanuel Macron quand même de développer beaucoup la concertation en amont sur les retraites, grande concertation sociale, et puis concerter sur la réforme de la santé, sur la réforme de l'école, est-ce que c'est pas antinomique en fait? On veut aller vite et en même temps, pour impliquer la société, il faut quand même y aller doucement ou en tout cas selon une méthode. Qu'est-ce que vous préconisez, vous?
Quand on veut aller trop vite, souvent on perd du temps. Bon, alors en France, comme on veut aller très vite, en général, on en perd après. Souvenez-vous d'Alain Juppé. Il veut réformer d'ailleurs les retraites aussi à l'époque, le système de soins. Il va très vite, il met boum, les réformes sont abandonnées. Sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, première version, il y a 2 ans, on veut aller vite, on a une idée qui est une belle idée hein, en soi, mais difficile à comprendre et le projet de loi n'est ni fait ni à faire. Et à ce moment-là, voilà, on remet plus tard. Donc c'est une alchimie. Il faut concerter. Ça veut pas dire nécessairement négocier, c'est pas la même chose. La négociation, c'est qu'on doit se mettre d'accord. À un moment donné, souvent, on se met d'accord sur une voie moyenne. Parfois, en France, on a besoin de réformes qui dépassent la voie moyenne, qui ont besoin d'être malheureusement un peu, enfin, clairement définies, singularisées. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont pour et beaucoup de gens qui sont contre, comme dans une démocratie. Mais un homme politique, une femme politique, elle est là pour prendre aussi des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'opinion publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'opinion publique, c'est pas ce que j'ai dit. Et je ne cherche ni l'austérité, ni la rigueur. Je crois au contraire que la France, elle a besoin d'opinions qui font qu'à un moment donné, on classe les gens comme hommes ou femmes d'État ou pas.
Monsieur Vert,
on ne gouverne pas uniquement en fonction des sondages, on gouverne en fonction de l'intérêt du pays. Et l'intérêt à moyen terme du pays. Pas uniquement de l'intérêt à court terme du pays. On a des générations qui vont nous succéder.
Alors précisément, sur les générations, il y a une réforme qui semble primer sur toutes les autres, c'est celle des retraites. Est-ce qu'il faut la faire coûte que coûte, alors qu'on observe déjà un tir de barrage de l'ensemble des syndicats avant même qu'elle soit présentée? Est-ce qu'il faut se dire, les électeurs auront tranché à la présidentielle puis aux législatives, on y va, on fait la retraite à 65 ans, même s'il y a les prévisions du corps qui disent que les comptes seront peut-être équilibrés en 2030 ou 2040, on fait la retraite puisque les électeurs en auront décidé.
Mais c'est un sujet.
C'est une vraie question.
Je suis le seul ministre qui ait réformé les retraites avec Nicolas Sarkozy. On est passé de 60 ans, c'était un symbole. C'était les symboles, il n'y a rien de pire. 60 ans à 62 ans. Ça a rééquilibré le régime général 5-6 ans après, la montée en puissance, c'est exactement ce qu'on avait dit. Et il faut continuer ces réformes-là. Si vous ne les continuez pas, alors à un moment donné, ça ne marche pas. Et le régime par répartition, il est fondamental. C'est la justice entre les générations. C'est un truc assez incroyable. Vous ne capitalisez pas. Les gens ont l'impression qu'ils capitalisent. J'ai payé pour ma retraite, j'ai le droit à ma retraite. Non, pas du tout. Puisque c'est les autres. Toi, tu as payé la retraite des gens qui étaient en retraite. C'est une sorte de justice entre les générations. D'ailleurs, c'est assez magnifique qu'on arrive à faire ça en France. Eh ben, pour éviter que ça se casse la figure à un moment donné, il faut prévoir très longtemps. Et le corps change de prévision sans arrêt selon les scénarios, parce que c'est très compliqué de savoir ce que ça donnera. Et vous ne pouvez pas prendre une décision pour le lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, on voit bien que dans les années 2027-2028, le régime de retraite va de nouveau être profondément en déséquilibre. Si, évidemment, on a un scénario où on est au plein emploi, avec une productivité du travail forte, il s'équilibre, le régime. Mais personne ne peut le prévoir. Et au fond, vous ne pouvez pas...
Le plein emploi, c'est ce qui est prévu par Emmanuel Macron. C'est l'objectif.
Vous ne pouvez pas construire un modèle aussi important qui doit traverser les années sans, évidemment, être prudent sur les choses.
Mais est-ce qu'on peut, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on en parle depuis le début, là, de contexte de tension, d'inflation, les prix flambent.
Et contexte électoral, n'oublions tout de même pas le contexte électoral.
Contexte électoral aussi, la situation dans les urgences. Dans ce contexte-là, est-ce que dès septembre, puisque c'est ce qu'a annoncé le nouveau ministre des Travail, Olivier Dussopt, on peut lancer cette réforme?
Il y a toujours plein de raisons de ne pas faire les réformes difficiles. Mais il y a toujours plein de raisons. On s'en est pris il y a un an, il y avait plein d'autres. Il y a toujours plein de raisons. Donc, il y a plusieurs réformes à mettre en place, sans doute au même moment, enfin en tout cas dans un laps de temps relativement faible. Vous avez cité la question de la santé, elle est fondamentale, sur les urgences, un peu partout, de Bordeaux à Senlis, en passant par Laval, en passant par... Il y a plein d'endroits où on manque de personnel, ce qui pose d'énormes questions. Alors, il y a des gens qui manifestent, c'est très bien, mais enfin, il y a des gens aussi qui essayent de s'en occuper. C'est quand même nettement mieux. Et donc, il faut réformer.
Petit incident. Est-ce que vous regrettez des décisions prises quand vous étiez au gouvernement sur la fermeture des lits, sur des résultats qui aujourd'hui peut-être sont payés cash par nos concitoyens?
Non, parce que c'est toujours trop simple de regretter. J'ai pas regretté qu'on puisse à un moment donné baisser le nombre de fonctionnaires. Je n'ai pas regretté qu'on puisse fusionner des établissements hospitaliers, par exemple, ou fermer des casernes, ou fermer des trésoreries. Il y a juste non parce que
c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous disiez.
Non, parce que c'est les impôts des Français aussi. C'est les mêmes Français. C'est aussi leurs impôts. C'est aussi quand vous regardez comment font d'autres pays, ils font différemment. Il y a une efficacité de l'argent public, et dans la santé, il y a une efficacité de l'argent public qui n'est pas tout à fait là. Dans l'éducation, c'est le cas également, et dans plein de sujets. Donc nous devons améliorer l'efficacité du service public, parce que les Français, quand ils payent un impôt, ils ont le droit aussi à ce que cet impôt soit utilisé correctement. Le Covid a fait naître d'autres éléments. C'est pour ça que moi, je n'ai plus appelé à la baisse du nombre de fonctionnaires avec un chiffre précis, contrairement à ce qu'avaient fait les Républicains. On s'y était opposé d'ailleurs avec Jean-François Copé à l'époque, en disant « c'est trop polémique ». C'est trop polémique. On vous demande toujours partout et évidemment, on tombe sur les policiers, oui. Sur le personnel de santé. Donc, il faut que ce soit la résultante d'une machine administrative qui produise ce qu'attendent les Français au moindre coût. Donc,
mais réorganiser un service public, c'est ce qu'on a voulu faire dans les hôpitaux et cette réorganisation, elle n'a pas fonctionné.
Peut-être,
donc,
peut-être parce qu'elle n'a pas été bien faite. Je n'en sais rien. Il y a plein d'autres pays qui fonctionnent
mieux
là-dessus.
Mais gouverner, c'est
peut-être
prévoir
que ce
aussi.
N'est pas uniquement, peut-être que ce n'est pas uniquement l'hôpital en lui-même. C'est probablement cette jonction entre médecine de ville et hôpital qui pose d'énormes problèmes. Il n'y a pas des problèmes partout dans l'hôpital. Il y a des services où les choses vont bien et puis il y a plein de services où ça va mal.
Quand on voit à Bordeaux les urgences fermées de nuit.
Oui, mais parce qu'on parle toujours des urgences. On parle assez peu des autres services. Ouais. Un hôpital n'est pas uniquement un service d'urgence. Il y a d'autres services. Il y a des services de médecine, il y a des services de chirurgie, il y a de la cardiologie, il y a plein d'autres sujets. Il y a des maternités, il y a de la gérontologie. Donc il y a plein de... Le vrai sujet, c'est la disponibilité, me semble-t-il, des personnels de santé. La fin du numéro clausus, d'ailleurs, est un point très important. Deuxième point, c'est qu'il y a sans doute plus de tâches médicales qui doivent être renvoyées vers des infirmières, des infirmiers, des pharmaciens. On l'a vu pendant le Covid, tout ça, on l'a senti. Peut-être que le numérique peut aussi faciliter de beaucoup le chose. L'ambulatoire, en France, on n'est pas les derniers de la classe, mais pas loin, dans les grandes puissances, je parle des grands pays organisés, on n'est pas bon dans le domaine ambulatoire. Donc il y a beaucoup d'organisations et qui me semble-t-il, vont dans le sens du personnel. Il faut rendre ces professions plus attractives. Et on a besoin de réattirer les Français vers les métiers du soin. Mais arrêtons de nous invectiver sans arrêt. Il y a toujours de l'invective là-dessus. Il y a des banderoles de tels syndicats, de tels gens, de telles associations de défense qui disent « il y a ci, il y a ça ».
C'est aussi parce qu'il y a de la souffrance vraiment... derrière.
Oui, enfin, il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi de l'utilisation à ça, il y a de l'incapacité à comprendre aussi des sujets. Peut-être qu'il y a des mauvaises décisions à un moment donné, mais qui n'en a pas pris, au fond, des mauvaises décisions? Moi, je vois simplement que la France, elle dépense de plus en plus, et que la dépense est de moins en moins efficace.
Alors, À propos de la dépense, vous qui êtes très, très omnubilé par la dette publique, notamment qui dépasse 100% du PIB, vous pensez qu'on peut faire un quinquennat en continuant à baisser les impôts? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager à un moment d'augmenter sur certaines parties de la population pour essayer de résoudre le problème?
Alors, j'aurais tendance à penser que on peut toujours baisser les impôts. Et si on doit baisser les impôts, c'est les impôts de production.
C'est ce qui va se passer.
C'est évidemment.
Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire?
Évidemment, les impôts. D'ailleurs, le premier impôt qui va disparaître, c'est la redevance audiovisuelle. Mais on a.
Il y aura quand même un débat au Parlement.
Si c'est voté. C'est toujours si c'est voté. Et deuxième point, il y a les impôts de production, c'est-à-dire qui pèsent sur la compétitivité, disons, l'efficacité des entreprises, leur capacité à créer de l'emploi, de la richesse et surtout à la distribuer. Donc il n'y a pas de pouvoir d'achat sans un travail approfondi, qui a déjà été largement commencé d'ailleurs, sur la compétitivité des entreprises. Et ça c'est absolument fondamental.
Et sur les plus bas revenus, ceux qui ne payent pas d'impôts, le gouvernement a promis de mettre le paquet sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous vous y retrouvez? La politique du quoi qu'il en coûte, elle est derrière nous, mais ce qui a été promis par Elisabeth Borne, notamment par exemple le relèvement du point d'indice des fonctionnaires, ça va coûter cher aux finances de l'État. Est-ce que vous êtes à l'aise avec donc, ça? Est-ce qu'il faut dépenser plus pour le pouvoir d'achat?
Sachant que le pouvoir d'achat est vraiment la priorité de ce moment législatif.
Sur la baisse des impôts, simplement, il y a quand même de fortes dépenses en face, et notamment, il va y avoir des dépenses nouvelles pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. C'est des dépenses de conjoncture. Ces dépenses, n'empêche que c'est quand même des euros qui vont être distribués.
Mais ils sont financés
par de la dette. Donc je pense qu'on peut toujours tenter de baisser les impôts maintenant, mais enfin ça va dégrader fortement le solde de la France. Donc la première des choses, c'est de mieux maîtriser la dépense publique, de rendre la dépense publique plus efficace et d'entamer quelques temps après une baisse des impôts de production pour accroître la capacité de la France. Et le pouvoir d'achat, il y a deux pouvoirs d'achat au fond, pardon. Il y a le pouvoir d'achat en réponse à la conjoncture qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une inflation démesurée qui vient de plein d'endroits différents. De la conjoncture, du structurel, des transitions du monde, transition écologique, elle va coûter plus cher.
Ça va durer longtemps.
Quand vous vous fournissez en légumes, non plus dans le supermarché qu'ils achetaient je sais pas où, produits je sais pas comment, mais chez les producteurs locaux, comme chacun le fait souvent en commandant parfois avant, souvent ça coûte un peu plus cher. Tout va coûter plus cher parce que vous êtes plus exigeant. Quand vous voulez livrer à nos enfants une planète plus propre, la question ne se pose même plus. On n'est pas que plus exigeant.
Hein, le prix des pâtes qui augmente, c'est pas une exigence de la part du consommateur.
On est consensuel aussi sur l'écologie. Au fond, c'est une grande victoire. Ça veut dire que tout le monde est consensuel là-dessus. Ça veut dire que aussi il va accepter à un moment donné de payer un peu plus cher son énergie parce qu'on la produira plus cher. Ce serait moins cher de livrer des millions de tonnes de charbon.
Est-ce que c'est à l'État de compenser parce qu'il en est déjà 20 milliards d'euros de dépenses publiques. Attendez,
vous me posez 12 questions en même temps sur le même sujet et j'essaie d'avancer et d'y répondre. Vous avez un monde quand même qui va changer, plus exigeant en termes de qualité et plus exigeant globalement dans sa manière de vivre, de produire et de consommer. Et ça coûtera nécessairement plus cher. En face de ça, vous avez l'inflation conjoncturelle d'aujourd'hui, l'augmentation massive due à la crise ukrainienne, due à des points comme cela, des prix de l'énergie.
Est-ce que les propositions du gouvernement sont suffisantes ou pas ? Il faut de façon ciblée pouvoir aider nos concitoyens
qui en ont le plus besoin. Alors, pas vous et moi, mais ça nous coûtera plus cher, on perdra un peu de pouvoir d'achat, mais on survivra à cela. Par contre, il y a une partie de nos concitoyens qui peut pas survivre à ça, qui n'avait pas suffisamment de revenus avant et qui ne peut pas subir cette hausse des prix de plein fouet. Donc il faut des chèques. Quelle que soit la manière de donner, il faut de façon ciblée aller chercher ces Français-là, ceux qui roulent le plus pour aller à leur travail, qui peuvent pas prendre de transport en commun, ceux
le
qui ont une alimentation.
De 50 euros, c'est une
le chèque
idée.
Alimentaire, je ne sais pas à combien, c'est au gouvernement
entre
de le dire.
Entre 30 et 60.
Enfin, un chèque alimentaire me semble être une bonne chose, comme des aides ponctuelles, qu'on maintienne le bouclier sur le tarif du gaz ou le tarif de l'électricité, ou la baisse de 18 centimes sur le carburant. Maintenant, attention aux injonctions contradictoires. Lorsque vous facilitez la consommation de pétrole, vous êtes au moins en train de dire qu'il faut consommer moins de pétrole. Et là, on est dans le plus long terme. Ça veut dire qu'à plus long terme, le pouvoir d'achat des Français, le pouvoir d'achat des jeunes Français, mais aussi des Français qui travaillent aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en train de parler du siècle qui va venir. C'est l'augmentation des qualifications.
Et des salaires, monsieur. C'est important,
monsieur.
L'augmentation
des salaires, c'est aux entreprises de
dire.
Très fortement. C'est
à chaque entreprise de le dire. Enfin, on n'est plus dans un pays où c'est l'État.
Le salaire minimum, c'est des fonctionnaires.
Il n'y a aucun pays qui gère les salaires des entreprises. En tout cas, pas de pays.
Des fonctionnaires qui vont augmenter.
Donc,
c'est l'État.
Donc, on parle là, c'est des traitements. On parle des salaires des entreprises.
Non, mais si, le salaire
minimum. Des salaires des entreprises bah là, l'État, c'est aux entreprises bah, privées, non, en dehors du SMIC, ah ouais, on a un salaire minimum.
Ça, c'est pas en dehors l'État du SMIC, c'est important.
En dehors du SMIC, le bah SMIC,
donc c'est un moyen,
salaire
c'est un levier.
Minimum, c'est un levier, mais on ne décide pas de l'augmentation des salaires.
Vous donnez, bon, c'est il y a un enchaînement.
Vous ne dites pas, pour l'ensemble des salariés, c'est évidemment. 4% ou 5%. C'est dans chaque entreprise que les choses doivent se faire, et je pense que les chefs d'entreprise, ils y sont suffisamment... Enfin, ils sont au contact de leur salarié. Donc, l'augmentation du SMIC, c'est toujours une solution possible, sauf qu'il faut voir les conséquences. Vous excluez de l'emploi un certain nombre de gens, c'est ça qui se passe hein, dans la réalité. Vous excluez de l'emploi, donc vous amenez vers la pauvreté un certain nombre de gens, et vous décalez totalement l'échelle des salaires, ce qui déclenche une sorte de spirale infernale entre les salaires et l'inflation. Et au fond, l'augmentation de pouvoir d'achat par le salaire, qui n'est pas fondée sur de la productivité du travail, hein, l'augmentation des salaires, c'est le reflet de la productivité du travail. Tout ça déclenche, au fond, une sorte de spirale infernale qui continue à augmenter l'inflation, qui elle-même va provoquer une augmentation de salaire, qui elle-même va provoquer une augmentation d'inflation. Donc ça, il faut qu'on fasse tout pour que ça n'arrive pas. En ce qui concerne, donc, à terme, l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, c'est par le travail, c'est-à-dire qu'il y ait moins de chômage, et la France est en train aujourd'hui de connaître un temps où le chômage est moins important. Il a baissé 2 points, il doit continuer à baisser.
Très légère au mois d'avril, ça vous inquiète
pas ? Je pense que c'est un phénomène plus conjoncturel. Sur le plan structurel, on voit que le chômage baisse. Chacun peut connaître des entreprises qui cherchent des emplois, quoi, qui cherchent des employés, du commerçant aux grandes entreprises, et qui ne trouvent pas. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut tenter de résoudre. Et puis pour les fonctionnaires, ça fait, moi j'ai dû être le premier ministre de la fonction publique à le faire. On avait gelé le point d'indice. Ça ne veut pas dire qu'on gèle le traitement des fonctionnaires. Le traitement des fonctionnaires, il a continué. Il y avait notamment, il y a toujours une garantie individuelle de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Donc par l'augmentation des grilles, par l'augmentation des qualifications,
non, parce qu'il y a de l'inflation.
Oui, mais la garantie individuelle de pouvoir d'achat, elle pèse aussi, et c'est aussi le sujet. Demander aux collectivités locales ou à l'État, il le fait individuellement pour chacun, lorsque ce n'est pas couvert par un autre type d'augmentation. Cela étant au bout d'un certain nombre d'années, ça avait été fait par Hollande une fois, on débloque le point d'indice, pourquoi pas. Mais attention quand même qu'on indexe les pensions de façon correcte, alors qu'aujourd'hui elles sont indexées mais de façon incorrecte. On a un peu ratiboisé les pensions au fur et à mesure. Hein, on voit bien que les retraites ont un peu baissé en parité de pouvoir d'achat. Donc il faut le faire. Qu'on augmente la prime Macron, qu'on la multiplie par 3. Pourquoi pas, c'est une prime. Donc c'est pas du salaire, il n'y a pas de productivité derrière. Donc tant mieux, il faut le faire. Il faudra le transformer à un moment donné en produit. Et qu'on fasse ce dividende salarial. C'est une très bonne chose, je pense, de considérer qu'intéressement et participation, il faut le simplifier, probablement le simplifier encore, et que chaque fois qu'on verse des dividendes aux actionnaires qui en ont besoin, il faut du capital pour une entreprise, il y a aussi des fruits clairs pour les salariés. Dividende salarial.
France Inter. Hashtag Question Paul.
On va, dans cette dernière partie avec Eric Woerth en direct avec nous jusqu'à 13h, s'attarder sur votre famille politique d'origine ou peut-être encore de cœur, je ne sais pas, les Républicains, et puis plus largement s'interroger sur la question de la recomposition de la vie politique dans ce contexte très précis d'élections législatives après les présidentielles. Votre départ est très mal passé à droite. On écoute Christian Jacob, le président des Républicains. C'était en février dernier, au moment de l'annonce de votre ralliement à Emmanuel Macron.
Moi, j'ai trouvé un peu pathétique la décision d'Éric Woerth. En plus, la s'entêter à vouloir rester président de la commission des finances. Vous savez que la commission des finances est une commission, la présidence, qui est attribuée à l'opposition. Il fait un choix qui est le sien, d'aller soutenir Emmanuel Macron. Et je pense que Éric Woerth a été particulièrement meurtri par les affaires. Et d'ailleurs, dans ces périodes les plus difficiles, il n'y a jamais manqué un seul soutien de sa famille politique.
Alors, pathétique, entêté, qui ne reconnaît pas tout le soutien que vous avez pu recevoir au moment des affaires, qui ne sont pas d'ailleurs achevées, qui vous concernent. Comment est-ce que vous entendez ces propos de Christian Jacob ?
Ils ont deux mois, ils ont vécu. Enfin, je peux comprendre que Christian Jacob soit pas d'accord. Mais enfin,
non mais est-ce que deux mois après, vous dites, j'ai bien fait de partir ?
Ah oui, oui.
Mais et vos électeurs, ils vous le disent pas, ce que vous dit Christian Jacob, ils vous disent pas, mais vous étiez avant notre député de droite.
Mais certains me le disent, et il y en a plein qui ne me le disent pas.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui vous le disent?
Certains me disent, c'est quand même super courageux. Ouais. Honnêtement, c'est courageux de partir de sa famille politique. Alors moi, j'aime les familles, j'aime la famille en tant que noyau de la société. Il y a aussi des familles recomposées. Il y a des familles qui éclatent. Il y a un moment donné, quand vous ne vous reconnaissez plus vraiment dans votre famille, à 70%, quand vous ne vous reconnaissez plus dans votre famille politique, vous avez le choix à suivre le troupeau bêtement et aller vers le précipice, ou à vous dire c'est pas possible. Et d'ailleurs, tous nos grands hommes l'ont fait. Je dis pas que je suis un grand homme, mais tous les grands hommes, à un moment donné, sont sortis un tout petit peu du troupeau. Laurent Wauquiez a amené cette famille politique
sur le plan. Ceux qui sont restés sont des mauvais hommes politiques qui n'ont pas saisi l'enjeu du moment.
Je vous dis ce que je pense.
Des moutons.
Je réagis aux formes d'insultes du président de LR. Donc j'ai le droit de réagir aussi. Vous avez le droit d'être insulté.
Oui, mais du coup, pour vous situer, vous êtes où aujourd'hui?
Dernier point. Quand vous faites cela, ça veut dire qu'il y a des convictions et que vous considérez que votre famille politique ne représente plus les choses. Ça ne veut pas dire que c'est plus votre famille politique. Moi, je n'ai pas.
Ah, vous êtes toujours de droite.
J'ai les mêmes convictions.
Vous êtes de droite.
Évidemment.
Vous êtes macroniste.
Mais bien sûr.
Vous êtes macroniste.
Oui.
Et vous êtes sarkozyste.
Bien sûr.
D'accord. Vous êtes tout ça à la
fois. Mais vous avez noté l'évolution chiracien de Nicolas Sarkozy.
Est-ce que vous pouvez nous raconter
mais la politique d'Emmanuel Macron, elle permet de marier sociaux-démocrates et la droite que je représente. C'est-à-dire que c'est beaucoup des électeurs de la droite, beaucoup, qui se retrouvent dans Emmanuel Macron. Vous croyez qu'il a trouvé où ses voix, Emmanuel Macron? Il les a trouvées en large partie chez les Républicains. Laurent Wauquiez a amené les Républicains à 8% dans un scrutin national. Les scrutins locaux, c'est un peu différent. Et au fond, Christian Jacob et Valérie Pécresse l'amènent à 4.
Il y a un avenir. 5. Alors, il n'y a plus d'avenir.
On a le droit quand même de se poser ces questions-là. Vous vous posez pas ces questions-là, si l'entreprise elle vend plus un produit,
donc
qu'elle ne se pose pas les questions sur sa stratégie.
Verne, est-ce que cette entreprise elle doit faire faillite? Est-ce qu'il y a encore un avenir pour votre ancien parti des Républicains entre Macron et Le Pen?
Je pense qu'il y a deux visions des choses au fond. Il y a plein de candidats aujourd'hui qui mettent LR. D'ailleurs, ils les mettent même pas sur leurs affiches. Donc il y a plein de candidats, ils sont super courageux, mais ils mettent même pas LR. On sait même pas qui c'est. Moi, je crois à la fidélité aux convictions. Je suis plus axé pour mon pays que pour mon parti, pour reprendre.
Je pense qu'il y a quelques républicains qui vont s'étouffer en vous entendant dire ça. Hein.
De quoi ?
Qu'il faut être attaché à ses convictions.
Oui, il faut être attaché à ses convictions. Je suis attaché à mes convictions. Je sais pourquoi j'ai adhéré à l'UMP, pourquoi j'ai adhéré à LR. J'en étais le secrétaire général. J'ai un peu de titre pour dire tout cela. Et quand Christian Jacob me reproche les affaires, c'est des affaires en général qui ont touché ma propre formation politique. C'est pas des affaires personnelles. Donc il faut qu'il en prenne une partie pour lui-même. Donc je crois que nous avons deux attitudes possibles. Soit on reste chez LR. Et on a une attitude destructive et pas constructive, où on va passer du temps sur les bancs de l'opposition à sans arrêt railler les ministres qui passent et à déclarer qu'on n'est pas d'accord de façon plus ou moins aimable. On est des chiens aboyeurs, et là, ça sert pas à grand-chose si on n'est pas un gros chien. Si on est un petit chien, ça sert pas à grand-chose. C'est même dangereux. Ou alors, est-ce qu'on est à la hauteur des idées qui sont les nôtres en faisant ça? Non, on rabougrit les idées qui sont les nôtres. Je pense que nous avons d'autres idées. Ces idées, c'est il faut les faire vivre au sein de la majorité présidentielle.
C'est qui nous?
Mais tous celles.
Parce que vous avez été le premier à rejoindre Emmanuel Macron. Vous n'avez pas été beaucoup suivi.
Non, c'est vrai, mais parce que c'est difficile. Il faut être un peu courageux pour le faire. Il y en a plein qui avaient envie de le faire. Mais plein de gens,
plein,
même
combien,
le LR de ma
10,
circonscription.
20, 30.
Mais plein qui avaient envie de le faire. Je ne sais pas compter. Mais simplement, ils l'ont bavé parce qu'ils n'ont pas osé, parce qu'il y a une machine, parce qu'il faut s'extraire de tout ça, parce qu'il faut admettre qu'on est très injurieux aussi. Et à chaque fois, on vous renvoie l'idée que vous avez vendu vos convictions pour un plat de lentilles. Quand ailleurs, on fait 4% des voix. C'est très très bien de parler du national, du local, en disant on est fort sur le plan local. Bien sûr qu'il y a un réseau sur le plan local très important d'élus locaux, et je les salue, j'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai du respect pour les militants, je suis un militant. Mais à un moment donné, il faut secouer la tête, il faut ouvrir les yeux. L'aveuglement, ça sert à quoi? Ça sert
mais
à quoi de s'aveugler
faites,
dans une situation?
Est-ce que la lucidité,
c'est pas le gaullisme? Est-ce que le gaullisme, c'est pas d'abord une vision lucide des choses?
Bien sûr, mais
est-ce que vous disiez, il faut les yeux ouverts, etc., mais est-ce que vous pouvez pas vous relever les manches et dire, bah, c'est dans mon parti que
j'ai
reconstruit.
Pourquoi
faire. C'était pas
mais
possible?
J'ai essayé de le faire pendant 5 ans. J'ai essayé de le faire sur plein des sujets
où
que
ça
je connaissais.
Où ça bloquait?
Mais ça bloquait un peu partout, j'en sais rien. Un ultra-conservatisme, une manière de réagir à l'actualité, aussi une détestation d'Emmanuel Macron qui n'a pas sa place, qui n'a,
ça vous
ça n'a aucun sens.
Ça vous Emmanuel Macron aussi, monsieur Vert, pendant son quinquennat, souvent, et de façon virulente, ou de façon
oui,
en tout cas.
Mais parce que
ferme.
Je n'ai pas.
Donc
mais
aussi,
mais parce que j'ai. Mais
ça.
Parce que moi, j'ai évolué. Vous avez le droit d'évoluer. Est-ce que vous étiez le même journaliste il y a 5 ans ou il y a 6 ans? Peut-être pas. Donc vous avez le droit d'évoluer, heureusement, dans le champ républicain. Je suis pas en train de. Vous voyez, j'ai pas
Monsieur
commis
Vert,
un crime contre l'humanité quand j'ai décidé de passer. Ben oui, mais parfois on a l'impression il y a des gens qui sont
la violence
de plus en plus.
Comment construire quelque chose
plan,
au sein de la majorité pour éviter qu'on vous accuse d'avoir trahi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce quinquennat
réussir,
en disant
réussir, montrer que la droite elle vit, montrer que cette droite responsable, cette droite de gouvernement, elle vit dans le gouvernement. Elle vit dans le gouvernement et dans la majorité. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin.
Vous êtes un député parmi un océan de députés de la majorité. Qu'est-ce que vous allez peser?
Mais l'océan des députés de la majorité, une partie vient de la droite, une partie a des convictions de droite, même s'ils n'adhéraient pas.
Donc vous allez vous regrouper.
Mais au même sens que les sociaux-démocrates essaieront de lui donner une couleur un peu plus sociale. Et au fond, c'est ce qui fera l'équilibre. C'est ce qui fera l'équilibre. Le tout, c'est d'avoir des résultats. Il faut des résultats. On doit avoir des résultats sur l'emploi, des résultats sur le pouvoir d'achat, des résultats sur notre capacité à protéger la planète, des résultats sur la sécurité, des résultats sur la famille. Il faut des résultats tangibles. Et les 5 ans qui viennent, l'enjeu est considérable. Et certains essayent, notamment Christian Jacob, essayent de dire tout le temps, on a beaucoup d'élus locaux. Mais nous sommes dans une élection nationale. On n'est pas dans une élection au conseil départemental. On n'est pas dans une élection cantonale. On n'est pas uniquement en train de traiter des sujets locaux. Le député, il représente une politique. Et la politique que je représente au sein de la majorité, j'espère, au sein de la future majorité présidentielle, s'il y a majorité présidentielle, c'est une droite responsable et une droite de
Donc
gouvernement.
Donc derrière Édouard Philippe, finalement. Vous allez rejoindre Édouard Philippe?
J'aime beaucoup Édouard Philippe. Il était un Premier ministre tout à fait remarquable. Non,
il va essayer de peser à la droite de la majorité.
Vous me parlez de parti politique sans arrêt.
J'ai parlé d'un homme, Édouard Philippe, qui incarne la droite dans la majorité.
Mais on travaillera ensemble, évidemment, avec Édouard Philippe.
Un mot justement sur
remarquable. Comme l'a été le Premier ministre Jean Castex, a été un bon Premier ministre dans ces périodes de crise. Il était un bon Premier ministre.
Alors, je ne parle pas d'un parti politique, mais d'une force politique très importante aujourd'hui, c'est l'abstention. Est-ce que ça vous inquiète, vous qui êtes du terrain, de voir le désintérêt des citoyens pour une campagne pourtant très agitée, très vivante, avec des vrais enjeux?
Oui, ça m'inquiète un peu, évidemment, parce que toute abstention, comme le nombre de candidats, comme la dispersion du nombre de candidats, ça renforce toujours les extrêmes, parce que c'est le vote extrémisme qui est souvent le plus solide. Et ça, c'est tout à fait dangereux. Les Français ont élu Emmanuel Macron largement. Ça a été difficile, ça a été compliqué, c'était une campagne qui n'était pas comme les autres, mais au fond, est-ce qu'il y a des campagnes comme les autres? J'en suis pas sûr. Elles se nourrissent de l'actualité. Donc, il faut donner à Emmanuel Macron la majorité dont il a besoin. Il est libre de son mandat. Il n'est pas rééligible. Donc on est aussi libre de reconstruire des valeurs de droite ou de centre-gauche pour ceux qui ont envie, des valeurs qui permettront derrière, dans 5 ans, une succession à Emmanuel Macron. Il n'est plus candidat. Donc une succession qui soit une succession dans l'ordre et pas une succession dans le désordre.
À plusieurs reprises, dans votre intervention, vous avez évoqué au fond la détestation que suscitait Emmanuel Macron, notamment à droite. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Je ne sais pas. D'abord, tout le monde ne le déteste pas, heureusement. Mais ceux qui le détestent le font savoir, quoi. Et de façon très brutale. Pourtant, on ne propose pas de passer ses vacances avec le président de la République.
Paysage politique.
Mais ça existait. Mais ça existait. Ça existait sur Nicolas Sarkozy. Toutes les grandes personnalités, ceux qui ont une personnalité, au fond, assez affirmée, c'est le cas d'Emmanuel Macron, c'était le cas de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac n'a été terriblement aimé que quand il a commencé à s'arrêter, hein, entre nous. Il n'a jamais fait plus de 20% en élection présidentielle. Et Dieu sait. Je sais que j'étais un militant du chiracisme, donc j'aime beaucoup Jacques Chirac, mais c'est comme ça. Donc on voit bien que les grandes personnalités qui essayent au fond de faire du mieux qu'elles peuvent, qui peut penser qu'ils essayent d'échouer, ils essayent du mieux qu'elles peuvent de rendre les Français plus heureux dans des périodes qui sont compliquées. Bah ces gens-là, ils provoquent des clivages. Avant ces clivages, on les supportait, on n'y mettait pas, on ne faisait pas de projection personnelle là-dessus. Aujourd'hui, on a des projections personnelles. Ça avait beaucoup commencé avec avec Nicolas Sarkozy, hein, qui était très attaqué. Moi, je détestais la manière dont Nicolas Sarkozy était attaqué personnellement pour
ce qu'il
était.
C'est pas aussi parce qu'ils se mettent beaucoup en avant eux-mêmes personnellement.
Peut-être, oui, parce qu'ils sont un peu verticaux aussi. Mais c'est la Cinquième République. Et Emmanuel Macron, j'ai détesté la manière dont mon gouvernement, dans mon propre parti, au sein des questions d'actualité, etc. Injuriel, lancer des mots. C'est pas la bonne façon de gérer le
Merci.
Pays. On peut pas apaiser le pays par l'injure.
Merci beaucoup. Eric Woerth, il n'y a pas eu d'injure sur ce plateau.
Non,
merci.
Mais c'est bien.
Merci Jeff, merci Françoise, merci Karine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis midi en direct à la technique. Hélène Ginès, tous dont on salue la mère pour la fête des mères. Et Damien Sangali. Je remercie aussi Alexandre Gilardi, Jean-Philippe Ballas pour la préparation de l'émission. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions Politiques.